Chapitre 7. L'obstacle qui se dressait entre elle et son amant pour l'empêcher de se jeter dans ses bras, c'était son crime, qui n'avait pris pour elle le nom de crime, avec son caractère vrai de responsabilité, que le jour où elle avait vu que Médéric l'aimait, et où elle avait senti qu'elle l'aimait elle-même, d'un amour qu'elle ne connaissait pas. Jusqu'à ce moment, elle avait rejeté la responsabilité de ce crime sur la Vaupalière, au profit exclusif de qui elle s'imaginait l'avoir commis. Mais du jour où, dans l'âme nouvelle que l'amour venait de créer, elle avait eu conscience qu'elle devait partager cette responsabilité et que la Vaupalière n'avait pas tout fait, qu'elle était sa complice, elle avait pris à son compte une part de ce crime. Aussi, sa sincérité était réelle en se déclarant indigne de son amant. Il eût été un la Vaupalière, elle se serait donnée. Il était, comme elle le disait, un honnête et brave cœur, tout plein des vertus de la jeunesse. Elle devait le respecter jusqu'au jour où elle serait devenue une femme autre que celle qu'elle était présentement, c'est-à-dire digne de lui. Comme elle ne faisait rien froidement, elle s'était jetée avec passion sur cette idée qui, par cela seul qu'elle l'avait eue, lui semblait un commencement de réhabilitation. Évidemment, une femme ordinaire n'eût point eu ses scrupules et n'eût écouté que son amour. Mais précisément parce que cet amour était au-dessus de l'ordinaire par celui qui l'inspirait, elle lui résistait. Cependant, si noble que lui parut cette idée, ce n'était pas sans lutte qu'elle l'avait admise. Car elle pensait bien que, pour une femme ardente et passionnée comme elle, le sacrifice serait terrible de se refuser à celui qu'elle aimait. Mais, quand elle avait vu Médéric à ses genoux, si tendre, si charmant sous le feu de ses regards et de ses caresses, dans le trouble et l'enivrement qui les exaltaient autant l'un que l'autre, elle avait senti, dans un bouillonnement violent, que ce sacrifice était bien plus exaspérant encore qu'elle ne l'avait imaginé. Aussi, lorsqu'ils se furent séparés et que toute seule, elle examina ce qui venait de se passer, se dit-elle, en frémissant encore de ses baisers, que ce serait folie de croire qu'une situation pareille pouvait se prolonger toute la vie. Qu'elle eût, malgré la révolte de sa chair, persisté à se refuser, cela était réellement beau et bien fait pour lui inspirer une juste fierté. En même temps, la soumission de Médéric prouvait la toute-puissance de l'influence qu'elle exerçait sur lui. Mais, aux satisfactions morales qu'elle pouvait trouver là, se mêlaient d'autres sentiments qui avaient leur force aussi, qui seraient irrésistibles le jour où il parlerait haut. Que fallait-il pour cela? Un hasard. Que Médéric fût plus touchant ou plus violent, qu'elle-même, entraînée, eût une seconde d'oubli. Eh bien, si cela se produisait, elle devait être à ce moment relevée de l'indignité qui la séparait de lui. Et ce relèvement ne lui paraissait pas impossible à obtenir. Est-ce qu'à tout péché il n'y a pas miséricorde? Qu'elle obtint la rémission de celui qu'elle avait commis, qu'elle expia son crime, ou plus justement sa part de crime, et elle devenait digne de Médéric. Pour cela, elle n'avait qu'à confesser ce crime, à s'en repentir, à s'en décharger dans le cœur de l'abbé Charles. Il lui imposerait des pénitences, elle les accomplirait, si dures qu'elles pussent être, et tout serait fini. Quand son esprit en travail fut arrivé à cette conclusion, elle ne pensa pas une minute à se dire que c'était une singulière morale, celle qui exigeait l'expiation d'un premier crime, à seule fin d'en pouvoir commettre un autre avec l'approbation de sa conscience. Mais, pleine d'espoir, elle n'eut plus d'autre souci que d'obtenir au plus vite l'absolution qu'il lui fallait. Lorsqu'elle voulait se confesser, elle avait l'habitude d'écrire à son oncle Gibourdel qu'elle irait déjeuner avec lui et de le prier de prévenir l'abbé Charles. Son parti pris, elle écrivit donc à son oncle et commanda une voiture pour le Tuite. Tu veux aller au Tuite ? Demanda la Vaupalière, qui avait entendu l'ordre donné à la femme de chambre. Oui, y a-t-il un empêchement à ce voyage ? Aucun. C'est pour ton oncle. Et aussi pour l'abbé Charles. Ils se regardèrent un moment. Je ne comprends pas ce besoin de se confesser, dit-il pour dire quelque chose et ne pas rester sur les idées que le regard venait d'échanger. Malheureusement, répondit-elle. À un sourd, ajouta-t-il. De nouveau, elle attacha les yeux sur lui. Mais on peut faire entendre à un sourd ce qu'on veut qu'il entende, dit-elle. Comme on peut l'empêcher d'entendre ce qu'on ne veut pas qu'il sache. Évidemment. C'était là un langage énigmatique, mais la Vaupallière ne jugea pas à propos de continuer la conversation pour le préciser, et, de son côté, elle trouva inutile d'en dire davantage. D'ordinaire, quand Benoît Giboudel attendait la visite de sa nièce, il donnait à sa maison un air de fête. Tout était mis en ordre dans la masure, le fumier râtelé et paré devant l'étable à vaches et l'écurie. On nettoyait le poulailler pour qu'elle pût aller elle-même dénicher les œufs si elle en avait envie. Les sentiers battus, qui, à travers l'herbe et sous les pommiers, conduisent aux différents bâtiments d'exploitation, étaient balayés. Enfin, la cuisine et la salle à manger prenaient des apparences de propreté qui ne leur étaient pas habituelles, les servantes ne se fatiguant pas dans une maison où elles avaient autre chose à faire que leur service. Puis, quand tout était prêt, Benoît Giboudel, à l'heure où Madame la notaire devait arriver, ouvrait lui-même la porte charretière et se mettait sur le seuil du potuit pour l'attendre, les mains dans les poches de sa veste de drap, le menton rasé de frais, les souliers cirés. Mais quand, ce jour-là, elle arriva, la porte charretière n'étant pas ouverte, et l'oncle ne l'attendant pas sous l'auvent du potuit, son cocher dut descendre du siège et faire entrer son cheval en le tirant par la bride. Personne non plus, dans la cour sale et désordonnée comme elle ne l'avait jamais vue. Ce fut seulement quand son cabriolet s'arrêta devant la maison que parut sur le seuil une servante qu'elle ne connaissait pas. Une grande fille, vigoureuse, à la poitrine opulente, au regard insolent, qui avait plutôt l'air d'une ouvrière de fabrique que d'une villageoise. « Est-ce que mon oncle est malade ?» demanda Hortense. « Il est dans le jardin à nous cueillir de la salade. » « Comment, son oncle cueillait de la salade, maintenant ?» Voilà qui était extraordinaire, car, excepté pour les cartes et les dominos, Benoît Giboudel ne se servait jamais de ses mains. Mais les paroles que la servante adressa au cocher du cabriolet ne furent pas moins étonnantes. « Si vous voulez dételer votre cheval, allez à côté de l'église, chez Pioche. Vous y trouverez à déjeuner, je pense. » Hortense était entrée dans la cuisine, qu'elle trouva plus sale encore, plus désordonnée que la cour. Presque aussitôt, son oncle parut, apportant des laitues dans sa blouse, traînant des sabots crottés. Et elle se dit qu'il n'avait pas eu le temps, sans doute, de se faire raser ni de s'habiller. Mais il ne fut nullement question de toilette. Après les premiers mots affectueux échangés, il se tourna vers la servante qui épluchait les laitues pour lui demander si elle n'allait pas bientôt mettre le couvert. Mais cette demande, il ne la fit pas du ton de commandement qui lui était habituel, doucement au contraire, presque timidement, comme s'il s'agissait d'une grâce à obtenir. « Faudrait bien voir à faire déjeuner Madame la Vaupallière, dit-il. Elle a peut-être faim. »« Pour sûr qu'on va la faire déjeuner. »« As-tu faim, ma petite Hortense ?»« Mais oui, mon oncle. » »« Vois-tu, Philogène ?» Eh bien, donnez un coup de torchon à la table, ça m'avancera d'autant. » Comme un mari soumis, Benoît Giboudel alla prendre le torchon qu'elle lui tendait et se mit à essuyer la table de la cuisine qui avait grand besoin de ce nettoyage, toute salie qu'elle était, de taches de café et de lait. « Faut que tu saches qu'on a séqué la lessive hier, » dit-il en s'adressant à sa nièce, « et que, pour lors, elle est entassée dans la salle où qu'on ne peut pas entrer à nuit. » Comment il en était arrivé à manger dans la cuisine, lui qui, même alors qu'il était seul, trônait dans sa salle ni plus ni moins qu'un souverain? Philogène, ayant fini d'éplucher ses laitues, commença à mettre le couvert sur la table sans nappe. Trois assiettes, trois verres, trois couteaux, trois fourchettes, et ce fut tout. C'était déjà quelque chose que cette simplicité chez un homme qui, habituellement, se mettait en fête pour recevoir sa nièce. Mais le plus extraordinaire, c'était de voir, dans la maison de Benoît Giboudel, où les domestiques avaient toujours été au-dessous des hôtes, une servante s'asseoir à la table de son maître et manger avec lui. Il ne convenait pas à Hortense de marquer de l'étonnement ou de la dignité. Et quand, au lieu du plantureux déjeuner qu'on lui servait toujours, avec une abondance qui faisait la fierté de son oncle, elle vit paraître sur la table une assiette de beurre salé, des œufs durs et un saladier de laitue, un pot de cidre et pas de vin, elle ne laissa paraître aucune surprise. Soit paresse, soit avarice, cette servante, devenue maîtresse, voulait qu'il en fût ainsi. Il n'y avait rien à dire. Aimes-tu toujours les œufs ? Demanda l'oncle Benoît. Mais oui, mon oncle. Comme elle avait fini la tartine de beurre par laquelle elle avait commencé, il lui offrit l'assiette aux œufs. Tu prendras bien un œuf ?
J'en prendrai bien deux, dit-elle en riant.
Allons, tant mieux. Je suis content de voir que tu as gardé ton bon appétit. Je suis content, bien content. Malgré ce contentement, il avait perdu son jabotage d'autrefois, et malgré son effort pour paraître gai, c'était de l'embarras et de la gêne qu'il montrait. Heureusement, ce sobre déjeuner ne pouvait pas se prolonger, et l'assiette aux œufs ainsi que le saladier ne tardèrent pas à être vides. Comme on ne servit pas le plus petit dessert, il n'y avait qu'à quitter la table. C'était ce qu'Hortense allait faire quand son oncle l'arrêta. « Tu prendras bien un verre de fine ?» Elle voulut refuser, il insista. Et s'adressant à la servante, « Donne-nous la bouteille de fine » dit-il de son ton le plus insinuant.
« Prenez-la vous-même, v'là les clés » répondit-elle.
Que l'oncle Benoît n'eût plus les clés de ses armoires, c'était un comble qui stupéfia Hortense. Comment cette fille avait-elle pu, en si peu de temps, le changer à ce point ? Quand elle quitta la cuisine pour se rendre au presbytère, son oncle la conduisit jusqu'au potuis. « Tu vas trouver le curé t'attendant, dit-il. Je l'ai chargé d'une commission pour toi. »«
Une commission ?
Il te dira la chose. Mieux vaut que ce soit lui. Mais tu sais, tu seras toujours ma nièce, foi de Benoît Gibourdel. »